Vous écoutez France Inter, il est 23h. Et on retrouve Laurence Thomas pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La poussée de violence à Air France lors du comité central d'entreprise. Des membres de la direction sur le point de se faire lyncher. Les syndicats en appellent au gouvernement pour tenter de régler cette grave crise que traverse la compagnie aérienne. Un policier dans un état désespéré après avoir été blessé par balle lors d'une course-poursuite avec deux braqueurs en Seine-Saint-Denis. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur les intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur ce week-end et sur la disparition d'Henning Mankell, l'auteur suédois de romans policiers.
France Inter.
10 minutes de colère et une image spectaculaire. Un dirigeant d'Air France qui escalade torse nu une barrière pour fuir des employés hostiles. Il était environ 10h30 ce matin lorsque des manifestants rassemblés à Roissy enfoncent le grillage qui les sépare du siège de la compagnie aérienne où se tient un comité central d'entreprise qui devait discuter de la possible suppression de 2900 postes dont des licenciements secs. Une salle pleine à craquer où la tension est à son comble. La foule encercle le directeur des ressources humaines Xavier Brosetta est le responsable de l'activité long courrier, Pierre Plissonnier. Leurs vêtements seront arrachés. Avec l'aide des CRS et de leurs gardes du corps, ils parviendront à être exfiltrés. Et ce comité central d'entreprise tourne court, bien entendu. Manuel Ruffez.
Et comment reprendre quand la violence éclate avec cette ampleur de ce que tentent d'expliquer les syndicats, en particulier la CGT? Ils avaient demandé à manifester pacifiquement sur le parvis du siège social, ce qui leur a été interdit. La colère a commencé là. Les grilles d'accès de ce parvis ont sauté, puis les manifestants sont entrés sans difficulté dans le bâtiment. Et c'est là, à l'intérieur, puis à l'extérieur, que les cadres et agents de sécurité qui cherchent à les évacuer sont pris à partie. Xavier Brosetta est le directeur général adjoint des ressources humaines qui s'est retrouvé torse nu et poursuivi.
Je suis évidemment choqué et déçu, mais je ne voudrais surtout pas que l'opprobre soit jeté sur l'ensemble des salariés ou des organisations syndicales d'Air France. Ce n'est pas le vrai visage d'Air France que nous avons vu ce matin. La violence et l'intimidation n'entameront en rien cette détermination. Nous devons jouer collectif et pour ma part, j'y suis prêt.
Alors comment justifier ça? Nous ne cautionnons pas, disent tous les syndicats. Pourtant, Miguel Fortea de la CGT Air France laisse entendre qu'il y voit l'expression d'une détresse.
Quand il y a un effet de masse, c'est difficilement contrôlable, les gens, surtout lorsque leur licenciement est acté. Après, bien évidemment, on ne peut pas s'en réjouir et cautionner et dire que c'est normal. Mais que voulez-vous? Nous, on a essayé de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. La direction ne nous a pas écoutés. Les gens ont poussé et on était jusque-là.
Et la direction d'Air France est dite disponible pour reprendre les négociations à tout moment. Elle indique également qu'elle a bien l'intention de porter plainte.
Plainte pour violence aggravée. 7 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Ce soir, la majorité des syndicats en appelle au gouvernement pour qu'il intervienne dans les négociations. Et puis depuis le Japon, le Premier ministre Manuel Valls s'est dit scandalisé par les violences inacceptables. Il a exprimé tout son soutien à la direction d'Air France. Plusieurs ministres lui ont emboîté le pas pour dénoncer ces débordements et appeler à la reprise du dialogue dans des conditions normales. La Côte d'Azur, à présent, eh bien, elle pensait plaie. Après le déluge et les coulées de boue qui ont fait au moins 20 morts depuis samedi, les sinistrés poursuivent le laborieux nettoyage des maisons, des rues de la Côte d'Azur, alors que les secours ont retrouvé les premiers corps des disparus. Une femme de 82 ans retrouvée morte à Cannes, un autre corps dans un parking de la ville. Beaucoup de victimes sont en effet mortes piégées dans les parkings souterrains. Reportage de Thibault Lefebvre.
Devant le cordon de police qui barre l'entrée de la résidence, les habitants du Cap-Vert vont et viennent pour déblayer tout ce qu'il est encore possible de sauver. David habite depuis 8 ans dans un appartement en rez-de-jardin. Il connaissait les victimes sans jamais n'avoir échangé plus de quelques mots.
C'est des gens qu'on croise, c'est des gens qui baladent leurs chiens, c'est des gens qu'on croise dans la résidence. Maintenant, c'est pas évident, on est 280, donc ça fait plus de 500, 600 personnes. Si on me montre une photo, oui, je vais me dire ah oui, je connaissais. Maintenant, sur des noms, je sais pas. Je sais que ce sont des personnes âgées, des pauvres gens qui ont voulu sauver leur voiture, quoi. C'était inadmissible.
Beaucoup d'habitants vivent ici quelques mois dans l'année, pendant les beaux jours. D'autres, comme Sylvie, résident en permanence au Cap-Vert. L'atmosphère y est cordiale, sans plus.
Le fait qu'on se soit beaucoup aidés les uns les autres, maintenant, je connais tous mes voisins que je ne connaissais pas du tout et c'est plutôt agréable. On s'appelle par nos prénoms et puis il y a une solidarité qui s'est mise en place, quoi. Quelque part. C'est triste, mais voilà, il y a ça.
Preuve de cette solidarité de circonstances, les résidents multiplient les allers-retours avec les affaires des uns ou des autres, avec une crainte partagée, selon Sylvie, ont retrouvé un nouveau corps.
Thibault Lefebvre, Mandelieu, pour France Inter.
Des balais, des raclettes, des seaux, des pelles, des dizaines de bénévoles se sont solidement armés donc pour aider les sinistrés, notamment à Biote, l'un des villages des Alpes-Maritimes les plus touchés par ces inondations. À Biote, les bénévoles ont reçu le soutien de Force 06, un service d'urgence du département. Une centaine d'agents sont mobilisés. Une mission que détaille son directeur, Jean-Marie Demirdjian, au micro d'Anne Patinec.
Réouverture des voies d'accès, ça c'est en voie d'être terminé. La deuxième mission qui a commencé, que vous voyez à l'aval, c'est l'enlèvement des embâcles. Tous les gros bois et autres déchets qui obstruent le lit de la rivière au niveau des ouvrages de franchissement. Ce qui fait qu'en cas de survenue de nouvelles pluies, il pourrait y avoir des problèmes encore plus graves. Et enfin, la troisième, c'est l'assistance aux riverains pour qu'ils puissent au moins retourner à l'orée de leurs habitations, de leur villa, par l'enlèvement de tous les bois, de tous les déchets qui obstruent la propriété, les jardins et ainsi que la voirie. Vous avez pu voir des tractopelles et des petits chargeurs pour sortir le bois de chez les gens et puis des grosses pelles qui vont aider à l'enlèvement des embâcles.
Alors ce soir, 4400 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement à Cannes et Mandelieu-la-Napoule. Les assureurs ont mis en place des procédures d'urgence pour pouvoir dédommager dans les deux mois les victimes. La convention d'assurance chômage est annulée. Les négociations vont devoir reprendre. Le Conseil d'État a annulé en effet cette convention d'assurance chômage qui régit l'indemnisation des chômeurs. Si les chômeurs n'ont rien à craindre, ils continueront à être indemnisés. Les partenaires sociaux, eux, vont devoir se remettre au travail très vite et s'entendre sur une nouvelle convention avant le 1er mars prochain. Explication de Bruce de Galzin.
Oui, le Conseil d'État laisse un peu de temps aux partenaires sociaux pour renégocier la convention. Il n'y aura donc pas de vide juridique, en quelque sorte, pour les chômeurs qui continueront, bien entendu, à être indemnisés. Mais le Conseil d'État a donné raison aux associations de défense des chômeurs et à la CGT sur plusieurs points. Et d'abord, le différé d'indemnisation de 180 jours, il était de 75 jours jusque-là, pour les salariés qui perçoivent une indemnité de départ, ils n'avaient droit au chômage qu'au bout de 6 mois. Le Conseil d'État a jugé illégal ce différé pour certains salariés, explique l'avocat qui a porté l'affaire, maître Thomas Lioncan.
Ce délai étant porté à 6 mois, effectivement, un certain nombre de salariés se trouvaient ainsi dissuadés d'aller devant le Conseil de Prud'homme, de peur de voir toutes les sommes qui leur allouées par le Conseil de Prud'homme absorbées par ce différé d'indemnisation. C'est ça que le Conseil d'État a condamné.
Les partenaires sociaux devront donc renégocier ce délai. Autre victoire pour les associations, les trop-perçus ou les indus que Pôle emploi s'autorise à saisir directement sur les allocations chômage. Le Conseil d'État juge que Pôle emploi n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Les allocataires pourront donc se retourner contre Pôle emploi. Si les associations crient ce soir victoire, les partenaires sociaux signataires de la convention estiment eux que les correctifs à apporter sont mineurs et qu'ils le feront dans les délais impartis.
Bruce de Galzin, un policier toujours ce soir entre la vie et la mort après avoir été blessé par balle ce matin lors d'une course-poursuite en Seine-Saint-Denis avec deux braqueurs dont l'un en cavale et fiché pour radicalisation a été tué. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu en fin de journée au commissariat de Saint-Denis où l'émotion était vive, Emmanuel Leclerc.
Oui, Bernard Cazeneuve devait se rendre cet après-midi initialement à Saint-Ouen pour un bilan de la lutte anti-trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur a donc tout annulé pour se rendre dans la commune voisine de Saint-Denis auprès des quelques 300 policiers qui, il y a encore quelques minutes, attendaient des nouvelles de leurs collègues qui étaient encore en salle d'opération. Eh bien, pour l'instant, ils n'ont pas plus de nouvelles, justement. Ils espèrent juste que, comme d'autres collègues qui ont eu ces dernières années des blessures aussi graves, il pourra s'en sortir. En attendant, les policiers de Saint-Denis ont écouté les paroles de Bernard Cazeneuve, l'hommage rendu, les risques de telles interventions et le courage qu'il faut dans ce genre de situation, mais surtout peut-être l'annonce que les moyens attendus depuis des mois, des années, allaient cette fois être débloqués rapidement, des moyens en hommes et en matériel. Ce soir, au commissariat de Saint-Denis, les policiers essayent surtout de comprendre comment le braqueur, l'agresseur, celui qui a tiré ce matin, pouvait avoir bénéficié d'une permission de sortie en mai dernier, de permission de sortie de prison, une cellule qu'il n'avait pas réintégrée, alors qu'il avait déjà près de 30 actes de délinquance sur son casier judiciaire.
Emmanuel Leclerc. En Allemagne, des milliers de personnes se sont rassemblées ce soir à Dresde à l'appel de PEDIGA, le mouvement islamophobe allemand, des manifestants qui dénoncent l'afflux massif de migrants outre-Rhin. Des migrants qui étaient au cœur des discussions aujourd'hui à Bruxelles entre le président turc Erdogan et l'Union européenne. Il a tourné en dérision les appels à l'aide de l'Union européenne face à l'afflux de migrants et de réfugiés, comparant l'effort des Européens à celui de son propre pays. Le président Erdogan a rappelé que la Turquie accueillait plus de 2 millions de réfugiés et l'Europe dans son ensemble en accueillait moins de 250 000. Il a donc été question d'une aide, Quentin Dickinson, en échange de contrepartie.
Oui, les Européens seraient d'accord pour cofinancer de 6 à 8 nouveaux camps de réfugiés en Turquie et demandent instamment aux autorités turques d'autoriser les réfugiés reconnus comme tels à travailler, histoire de les dissuader quelque peu de tenter l'aventure en direction de l'Europe. Les Européens seraient éventuellement d'accord pour accueillir 500 000 réfugiés de plus, au moins à titre provisoire, mais les Turcs, pour l'instant, ne veulent pas entendre parler de centres d'enregistrement et de tri gérés par l'UE en Turquie, alors que l'UE voudrait que les 500 000 n'incluent aucun migrant économique. D'autre part, l'UE chargera Frontex de coordonner des patrouilles renforcées entre la Grèce et la Turquie. L'Union européenne a déjà débloqué 1 milliard d'euros pour soutenir les camps en Turquie et Recep Tayyip Erdogan en réclame davantage puisque, dit-il, son gouvernement a déjà décaissé près de 7 milliards d'euros pour loger les migrants.
Quentin Dickinson, 3 attentats en Irak, explosion de 3 voitures piégées, au moins 50 morts, 74 blessés. Le groupe État islamique revendique ces attaques, 2 dans la région de Bagdad et la 3e au sud, près de Bassora, une région pourtant difficile d'accès pour les groupes djihadistes sunnites. L'aviation russe indique ce soir avoir bombardé en Syrie 10 cibles du groupe État islamique. Selon le ministère russe de la Défense, des avions Sukhoi ont effectué 25 sorties et détruit notamment un poste de commandement dans la province de Homs. 20,8 milliards, c'est la somme que le groupe pétrolier BP devra finalement payer pour mettre fin aux poursuites engagées par les autorités américaines après la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique. Une pollution sans précédent du littoral provoquée par l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater. Il avait fallu 87 jours pour boucher le puits situé à 1500 mètres de profondeur sous l'eau. L'équivalent de plus de 3 millions de barils de pétrole s'était échappé et avait souillé plus de 2000 km de côte. Cette question, peut-on ouvrir son commerce 7 jours sur 7? Eh bien non, selon la justice, 4 boulangers des Landes étaient poursuivis devant le tribunal de police de Dax pour avoir vendu du pain tous les jours de la semaine en infraction avec la réglementation en vigueur. Ils ont été condamnés à 500 euros d'amende avec sursis. Amertume de Stéphane Cazenave, il avait maintenu ouverte sa boulangerie sans discontinuer pendant 3 ans et demi.
Ben voilà, 500 euros avec sursis, de toute façon c'est ce qu'on s'attendait. Plus les frais de justice, puisque je paye pas assez d'impôts et tout ça, donc j'ai encore des frais de justice à payer.
On vous sent très amer ?
Oui, amer, parce que j'ai entendu aujourd'hui aux actualités plein de personnes qui sont accusées pour plus grave que moi, je pense, et moi c'est que du travail.
Vous avez fait appel ?
Pas du tout.
Est-ce que vous allez continuer à rester fermé le lundi ?
Ben oui, obligé.
Finalement, votre combat, il a servi à quelque chose ou pas ?
En discutant avec des gens hier, puisque j'étais avec des confrères boulangers, mon combat ne sert à rien et ça changera pas la situation. Ça fait 30 ans que c'est comme ça en France, ça changera jamais. Je demande juste que ça soit équitable pour tout le monde, pour tous ceux qui vendent du pain. Voilà, je vois pas pourquoi on était 5 accusés aujourd'hui et pas les autres. Et quand je dis ça, je parle des grandes surfaces, bien sûr.
Un 5e boulanger poursuivi pour les mêmes faits a été relaxé.
Laurence Thomas, Intersoir.
Henning Mankell vivait entre la Suède et le Mozambique. C'était sa façon à lui d'observer le monde d'un autre endroit que depuis notre Europe ethnocentrique, expliquait-il. L'auteur phare de la littérature policière nordique est mort la nuit dernière des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans. Il laisse derrière lui une œuvre riche d'une quarantaine de titres vendus à 40 millions d'exemplaires dans le monde, traduits dans pas moins de 35 langues. Henning Mankell, c'était bien sûr le père du commissaire Wallander qui incarnait une vision désabusée de la social-démocratie scandinave. Mais Henning Mankell n'était pas seulement le monstre sacré du polar, c'était aussi un homme de gauche engagé qui aimait lutter contre les extrémismes, les intégrismes et les violences de toutes sortes. Un homme en colère face aux injustices et aux inégalités. Son dernier livre, paru le mois dernier, racontait son combat contre le cancer. Ilana Mor-Youssef.
Quand il a appris qu'il était atteint d'un cancer en janvier 2014, Henning Mankell a immédiatement décidé d'écrire sur ce qui lui arrivait. Ce journal de bord de la maladie, publié dans un quotidien suédois, il voulait l'écrire, disait-il, avec la perspective de la vie, pas de la mort. Mankell était ainsi, pas du genre à esquiver un combat. Son éditrice française depuis 20 ans, Anne Freyer, aux éditions du Seuil, devait le retrouver la semaine prochaine pour un festival littéraire à Aix-en-Provence.
Il disparaît au moment où nous publions un très très beau recueil de fragments, Sable mouvant, qui évidemment part de cette terrible nouvelle, à savoir qu'il était atteint d'un grave cancer. La tonalité de l'ensemble est à la fois grave et personnelle, très intime. Il nous a conviés dans ce dernier livre à partager un peu le voyage de sa vie. C'est un très très beau texte et il nous fait ce magnifique cadeau.
Mankel passait une partie de l'année au Mozambique avec la troupe de théâtre qu'il avait créée. Un homme engagé donc. En 2010, il avait pris place à bord de la flottille de Gaza en signe de soutien aux Palestiniens. Mais sa renommée internationale, il la devait à ses romans policiers dont le héros était le commissaire Valander, ce policier mélancolique qui voyait avec accablement l'irruption d'une violence à l'américaine dans la Suède de son enfance.
Et le dernier livre donc d'Enig Mankel, Sable mouvant, fragment de ma vie, est paru aux éditions du Seuil. À suivre le temps de ce mardi avec Élodie Calac de Météo France.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de chaussettes et collants en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie cachemire, pour hommes et femmes. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Des averses pour demain. Entre les côtes de la Manche, les Charentes, le Massif central, l'Île-de-France, la Bourgogne et le nord de la Seine, le temps sera agité avec des averses orageuses et du vent dès le matin. Ces averses concerneront également le flanc est l'après-midi. Elles seront plus marquées sur les Alpes. Ça se calmera pour la soirée. Sur le sud-ouest, les averses seront plus espacées. Vous aurez un peu plus de soleil. Enfin, dans le sud-est, après quelques gouttes en matinée, ce sera instable sur la région PACA l'après-midi avec quelques averses sur le littoral, plus soutenues et orageuses en montagne. Par contre, sur le littoral du Languedoc-Roussillon, ça deviendra plus lumineux grâce à la tramontane. Côté température, comptez 17 à 22 degrés l'après-midi, 21 à 24 du sud-ouest jusqu'à la Méditerranée et 24 à 26 pour la Corse.